buenos días.
Accent d'Europe, Laurent Berthoud.
Bonjour à tous. Avant d'évoquer les élections en Allemagne, petit détour par la Turquie, où des millions d'écoliers font aujourd'hui leur rentrée et découvrent leur nouveau manuel. Et le moins qu'on puisse dire à Nandlauer, c'est que les programmes scolaires, revus et corrigés, du primaire au lycée, suscitent la controverse.
Si les manuels scolaires turcs font couler tant d'encre cette année, c'est autant pour ce qu'ils contiennent que pour ce qu'ils ne contiennent plus. À commencer par la théorie de l'évolution. Son enseignement a tout simplement disparu au collège et au lycée. Trop controversé, se défend le gouvernement, pour qui les travaux de Darwin risqueraient de semer le doute dans l'esprit de la jeunesse pieuse qu'il prétend vouloir éduquer. Raccourci également les chapitres consacrés à Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la République laïque. Et puis il y a tous ces ajouts que les syndicats d'enseignants découvrent et dénoncent au compte-gouttes. Dès l'école primaire, les élèves reçoivent une leçon sur la tentative de putsch de l'été 2016. Ils sont notamment invités à disserter sur l'héroïsme des Turcs descendus dans la rue, sur le martyr de certains et à soutenir la lutte contre les terroristes, qu'il s'agisse des putschistes, de Daesh ou du PKK kurde. Autre ajout polémique, la notion de djihad devait faire son apparition en primaire. À cause de retard, ce sera pour l'année prochaine. Mais le ministre de l'Éducation n'en démord pas, je le cite. « Le djihad est un élément de notre religion. C'est le rôle de l'éducation nationale que d'expliquer tous les concepts. Le vrai sens du djihad, c'est d'aimer son pays, sa patrie et de servir l'unité nationale. » Fin de citation. Le référendum d'avril, qui a acté la fin du régime parlementaire et la naissance d'un régime présidentiel pour Recep Tayyip Erdogan, n'a pas été oublié. Aux écoliers, ce régime est présenté comme la garantie de l'indépendance et de l'impartialité de la justice. Que dire enfin des nombreux ajouts aux cours de religion et sur la vie du prophète? Dans ces derniers, optionnels au lycée, on apprend par exemple que l'épouse doit obéissance à son mari. L'homme est le chef de famille, se justifie le ministère, qui semble avoir oublié que cette mention a disparu du Code civil turc en 2001.
Pour une Allemagne où il fait bon vivre, voilà le slogan de campagne de la chancelière Angela Merkel en vue des élections fédérales de dimanche prochain. Et il est vrai que l'Allemagne s'est rarement aussi bien portée, taux de chômage au plus bas, une croissance à la hausse et un excédent commercial record de 252 milliards d'euros. Pourtant, le miracle allemand en a laissé plus d'un sur le bord de la route, comme l'a constaté Déborah Berlioz à Berlin.
C'est un matin pluvieux de septembre. Une soixantaine de personnes font la queue avec leur cabas devant une église berlinoise. Elles attendent la distribution du Tafel, les restos du cœur allemand. Lydia vient ici toutes les semaines depuis le mois de mai.
C'était très dur de venir ici. J'ai fait un gros effort sur moi-même. Avant, j'essayais toujours de faire autrement et ma famille m'aidait, mais ça me gênait, donc je n'avais pas d'autre solution.
Cela fait 10 ans que cette élégante femme de 40 ans dépend des aides sociales. Pour arrondir les fins de mois, elle enchaîne les mini-jobs, des contrats précaires à temps partiel. Mais si elle gagne trop, elle perd ses aides sociales. Entre l'aide au logement et son allocation chômage de longue durée, elle touche 700 euros. Et quand elle cumule 2 mini-jobs, elle atteint un revenu de 900 euros par mois.
On s'en sort parfois mieux quand on ne reçoit que les aides sociales. Finalement, ça n'apporte que du stress.
Pourtant, l'Allemagne se porte bien. Le taux de chômage n'est qu'à 5,6% et en août dernier, 741 000 emplois étaient à pourvoir. En 2003, le taux de chômage dépassait les 10%. À l'époque, le chancelier Gerhard Schröder a donc lancé les réformes Hartz. Ces lois ont réformé l'assurance chômage, créé les mini-jobs, les emplois à 1 euro de l'heure. Selon le politologue Nils Diederich, ces réformes ont rempli leur objectif. Elles ont flexibilisé le marché du travail.
Beaucoup d'emplois à temps partiel ont été créés. Leur nombre a considérablement augmenté. Mais il faut faire une distinction ici. Il y a beaucoup de gens qui sont heureux de travailler à temps partiel. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont forcés de travailler à temps partiel parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi à temps complet. L'intérim a également beaucoup augmenté et c'est en général moins bien payé.
Selon la fédération syndicale des GB, 1,2 million d'Allemands actifs doivent compléter leur salaire par des aides sociales afin de couvrir leurs besoins essentiels. Pourtant, le salaire minimum est entré en vigueur en 2015. Une bonne avancée pour Nils Diederich, mais qui a ses limites.
Dans le domaine de la coiffure, le salaire minimum a beaucoup aidé. Mais le salaire minimum est une chose et la hausse des salaires en est une autre. Et elle est particulièrement faible dans ces emplois précaires. Mais cela va peut-être changer car il y a un gros manque de main-d'œuvre dans ces emplois.
Cette précarité se retrouve surtout dans les services comme la coiffure, l'hôtellerie ou la restauration. Les inégalités salariales restent donc très fortes, une réalité confirmée par un rapport du ministère fédéral de l'économie publié en août dernier. En 2015, 40% des actifs avaient un salaire réel inférieur à son niveau de 1995. Une grande part de la population aurait ainsi perdu du pouvoir d'achat depuis 20 ans, et aujourd'hui 16,7% des Allemands sont menacés de pauvreté. Les mères célibataires sont surreprésentées dans ce groupe. Judy, maman d'un petit garçon de 6 ans, est au chômage. Elle vient aussi au Tafel chercher des denrées et elle peine à s'en sortir avec les aides de l'État.
Je cherche un appartement, mais comme je reçois des aides sociales, je dois respecter certaines consignes. L'appartement ne doit pas être trop grand ni trop cher. Ces consignes sont basées sur l'indice des loyers de 2015, sauf qu'entre-temps, les loyers ont augmenté. Il faudrait que ce soit ajusté.
Judy et Lydia font partie du public ciblé par le candidat social-démocrate Martin Schulz. Son slogan promet davantage de justice sociale et dans son programme, on annonce de meilleurs salaires et une meilleure retraite. Mais les clients du Tafel ne semblent pas convaincus. Lydia ne lui donnera certainement pas sa voix.
Ce ne sont que des formules toutes faites parce qu'il ne peut rien changer. C'est juste pour obtenir des suffrages.
Dans tous les cas, le sujet ne mobilise pas les foules ici. Pendant l'unique débat télévisé entre Angela Merkel et Martin Schulz, seules 3 minutes ont été consacrées aux questions des inégalités et des retraites. Les électeurs veulent surtout entendre parler de sécurité et des crises qui secouent la planète. Résultat, les sociodémocrates ne sont qu'à 23% des intentions de vote, soit 15 points de moins que les conservateurs.
Hey Angie, gerade ist doch Führungsstärke extrem wichtig. Da schließt du dich doch an, oder?
Schließe ich mich nicht an?
Oh Mann, na dann hör mal zu. Ja, wer stolpert in die Krise rein, steht in Europa ganz allein. Das ist die Angela.
Hey Angela.
Et oui, sans surprise, les électeurs allemands devraient accorder un 4e mandat de chancelière à Angela Merkel. Une longévité politique exceptionnelle pour cette dirigeante qui n'a pas craint de prendre des risques en accueillant près d'un million de réfugiés ces 2 dernières années. Alors comment cette ancienne étudiante en physique d'Allemagne de l'Est est arrivée au sommet de l'État et s'y est maintenue? C'est l'objet du livre de Marion van Reddergem, paru aux éditions Les Arènes. Angela Merkel, l'ovni politique, comme elle l'a expliqué à Frédéric Lebel, l'atout de Merkel, c'est justement cette différence.
C'est ce qui me fascine depuis le début chez elle, c'est cette manière qu'elle a d'être totalement différente et presque incongrue par rapport à tout ce qu'on connaissait de son entourage à la CDU, dans ce parti conservateur allemand. D'abord parce qu'elle vient de l'Est, parce qu'elle est une femme dans un milieu qui est très masculin. Elle est protestante dans un milieu très catholique. Elle est divorcée dans un milieu où ça ne se fait pas. Elle s'habille mal dans un milieu où on s'habille plutôt bien et de manière chic. Elle est différente en tout et j'étais tout de suite fascinée au moment de son élection en 2005 quand elle a battu le chancelier, son prédécesseur social-démocrate Gerhard Schröder, qui lui-même n'en revenait pas d'être battu par une sorte de mauviette finalement à ses yeux, ne comprenait pas que cette petite bonne femme venue de rien et n'étant personne ait pu le battre.
En fait, elle a su utiliser ses faiblesses, ce manque de charisme finalement, c'est un atout. Personne ne la voit venir.
Je pense qu'elle est très intelligente et je suis allée voir son ancien professeur de mathématiques quand elle était collégienne ou lycéenne dans son petit village de l'Est où elle a grandi, qui m'a dit quand même, c'est la personne la plus douée en maths que j'ai jamais eue de ma vie, même si elle n'était pas chancelière, je m'en souviendrai. Elle résolvait les problèmes par un trajet différent de celui qui était le corrigé officiel et souvent elle allait plus vite et elle ne cédait jamais rien. Elle allait toujours jusqu'au bout, elle ne lâchait pas un problème. Une intelligence qui n'est pas encore une fois, celle qu'on peut connaître chez nos énarques et sens de la politique bien trempé, mais une ténacité logique, je dirais.
Elle est humble, donc elle ne fait peur à personne, mais finalement, elle trouve les solutions. C'est ça qui fascine quand même tous les gens qu'elle rencontre. Elle est intelligente, elle sait trouver.
Elle trouve les solutions. Elle est aussi extrêmement machiavélique et c'est pas une gentille en politique. Elle les a éliminées et comme vous dites, elle a su tirer parti de sa simplicité en bernant finalement tout le monde. Ses cadres de la CDU et à commencer par le premier d'entre eux, Helmut Kohl, imaginaient qu'elle était totalement inoffensive, que c'était vraiment la bonne.
On l'appelait d'ailleurs la Mädchen.
La Mädchen de Kohl, qui la chouchoutait, qu'il avait prise sous son aile et qui n'imaginait pas une seconde. Justement, il se disait, c'est bien parce que j'ai quelqu'un d'efficace, d'intelligent et qui peut servir, mais qui au moins n'est pas du tout un danger pour moi. Personne ne soupçonnait l'ambition qu'elle pouvait avoir. Peut-être qu'elle-même d'ailleurs non plus au début, mais c'est quelqu'un qui saisit les moments. Elle ne prévoit pas très longtemps à l'avance, mais quand quelque chose se présente à elle, elle sait saisir l'occasion et elle l'a saisie admirablement pour faire tomber Helmut Kohl et écrire une lettre qu'il a achevée et prendre sa place tout simplement.
Oui, au moment des fameuses caisses noires de la CDU, c'est une formidable tacticienne et il y a une méthode Merkel, on comprend ça très bien dans votre livre, elle n'aime pas les réunions, elle fonctionne toujours en aparté, en tête à tête.
Oui, elle est très mauvaise oratrice et elle-même s'en amuse d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'elle regarde, il y a une émission en Allemagne où elle est souvent caricaturée, elle est très mauvaise dans ses discours. Est-ce qu'elle sait faire, c'est encore une fois des petits pas, des petits ajustements et c'est une négociatrice finalement, une artiste du compromis en permanence.
Oui, elle fonctionne beaucoup par petits papiers, des SMS individuels.
Elle adore les papiers, ce que me disaient à la fois Hollande et les conseillers de Sarkozy, etc. C'est à quel point elle les agace, parce que les Français adorent se gorger de belles paroles et dire on va faire ça, on va faire ça. Et elle, ce qui l'intéresse, c'est de regarder les conclusions, de dire non, on va rajouter néanmoins là, non mais là il manque un cependant, etc. Et eux, ils trouvaient ça grotesque, mais en même temps, ils disent en même temps, c'est finalement elle qui aboutissait à un résultat final qui convenait à tout le monde.
Alors ça, c'est la Merkel, je dirais, tacticienne. Et vous dites, il y a deux facettes de la même personnalité. Il y a Merkel, la tacticienne, et Angela, l'humanitaire, d'une certaine manière.
Exactement. Et je pense qu'il y a une évolution. Donc les deux premiers mandats d'Angela Merkel étaient extrêmement concentrés sur l'économie allemande. Elle-même, sans doute, n'était pas tout à fait assurée encore. Et elle se comportait en petite comptable. Puis il y a eu la crise financière qui est arrivée. Donc elle pensait avant tout à l'Allemagne. Elle ne s'est pas comportée en grande européenne, loin de là. À cette époque, pendant la crise grecque non plus, elle regardait les chiffres, elle était totalement timorée, elle avait l'air d'une petite experte comptable. Et je pense qu'il y a eu un pivot pendant son troisième mandat, quand elle laisse entrer les réfugiés chez elle, qu'elle fait cet acte humanitaire et humain très fort. Et je pense que c'est un geste qui en plus s'explique par sa construction, la manière dont elle a été élevée dans la dictature. Elle sait ce que c'est qu'un mur, elle est aussi très construite par les valeurs protestantes.
Elle se laisse quand même la liberté de pouvoir faire des coups comme ça, d'avoir des coups de cœur. Fukushima, après Fukushima, la décision de sortir du nucléaire, c'était aussi un coup de cœur.
Oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a Fukushima et il y a les réfugiés. Ce sont les deux moments où elle s'est lâchée, si on peut dire, où elle s'est révélée. Et on peut se dire que si elle emporte ce quatrième mandat, ce qui est fort probable, elle n'aura plus rien à perdre politiquement. Elle sera plus obligée d'être dans les petits calculs. Et je pense que elle pourra se lâcher sur ses valeurs encore davantage, comme elle a pu le montrer dans ces deux moments, l'arrêt du nucléaire et l'accueil des réfugiés, où tout d'un coup, elle était hors des calculs politiques.
Est-ce que c'est ça qui va rester? Parce que finalement, elle n'a pas fait de grande réforme sur
aucune.
La question de la crise européenne, on ne veut pas dire qu'elle est brillée
absolument
par sa vision. C'est ça qui va rester?
Merkel, sans faire grand-chose, comme vous le soulignez, elle n'a aucune réforme marquante d'Angela Merkel, mais elle incarne à merveille ce peuple qui est content, qui à 75% quand même, les Allemands sont contents de leur sort et sont optimistes sur leur avenir. Ça n'empêche pas la précarité, ça n'empêche pas la pauvreté, mais il y a quand même une très large majorité qui est contente et elle incarne cette stabilité dont ils ont envie.
Angela Merkel, l'OVNI politique, un ouvrage de Marion van Rentergem aux éditions Les Arènes.
Просыпайтесь, приехали Саранск.
Такси надо? На футбол приехал?
Yes, football.
Après le Brésil en 2014, la Coupe du Monde de football se tiendra l'été prochain en Russie. Dans l'histoire de la compétition, ce sera la première fois en Europe de l'Est. À 650 km à l'est de Moscou, Saransk fait partie des 11 villes russes qui accueilleront l'événement. Vous entendez à l'instant son clip de promotion. La capitale de la petite république de Mordovie n'a jamais rien connu de tel. Étienne Bouch a suivi la préparation sur place à moins d'un an du mondial.
Sa sélection a été une surprise. L'organisation d'un événement d'une telle envergure à Saransk n'avait rien d'évident. D'ailleurs, le nom de la République fait souvent grimacer. En Russie, la Mordovie reste associée à ses colonies pénitentiaires à régime strict. Inconnue à l'étranger, elle a connu une petite notoriété avec l'exil fiscal retentissant de Gérard Depardieu. L'acteur français avait alors choisi de s'enregistrer officiellement à Saransk. Saransk ne ressemble pas à ces villes de province décrépites. Dans les classements, elle figure parmi les mieux aménagées du pays. En quelques années, le centre-ville s'est transformé. Les bâtiments sortis de terre sont d'un goût certes discutable, ils sont flambant neufs. La cadence des travaux s'est accélérée lorsque Saransk a été retenue parmi les villes hôtes de la Coupe du Monde. Alexei Merkouchkin, ministre des programmes spéciaux de Mordovie.
Déjà, il y a le stade qui sera terminé au mois de décembre. Ensuite, il y a l'aéroport. Nous en construisons un tout neuf avec pistes d'atterrissage, système de navigation sécurisé et nouveau terminal. Un hôtel 4 étoiles a déjà été construit. Il est ouvert. Deux autres sont bien avancés et seront terminés cet automne. Et puis, il y a aussi une série d'infrastructures qui serviront à la ville après la compétition. Deux nouvelles routes, un service de distribution d'eau modernisé, des choses dont nous hériterons après le mondial et qui profiteront à la population.
Tout le monde ou presque s'accorde à dire qu'à Saransk, il ne se passe pas grand-chose. En accueillant le mondial, cette ville de 320 000 habitants espère s'offrir une nouvelle image. C'est sans doute la première fois qu'elle recevra un nombre significatif d'étrangers. Pour le moment, les questions en anglais laissent serveurs et réceptionnistes perplexes. Orienter et conseiller les supporters, ce sera la tâche des bénévoles. À Saransk, le comité organisateur a reçu 5700 candidatures pour seulement 1300 places.
Bienvenue dans notre centre de volontaires.
Sergueï a 21 ans. Il est étudiant et pourra renseigner les visiteurs en français.
Vous savez, ici à Saransk, en province, on n'a pas beaucoup d'occasion de parler avec les étrangers. Je sais qu'à Moscou, à Saint-Pétersbourg, il y a beaucoup de possibilités, mais ici, voilà, cette coupe... C'est vraiment une occasion pour les étudiants ici, peut-être, de connaître un peu les gens des autres pays, comme voilà, les Français, les Anglais, les Américains.
Non loin du centre, le nouveau stade est achevé à 80%. C'est le plus grand chantier de la ville. Il mobilise 2000 personnes. Le stade doit être livré à la fin de l'année. Il pourra recevoir 45 000 spectateurs. Une capacité qui paraît extravagante pour Saransk où la fréquentation des matchs n'a jamais été démentielle, même quand le club de la ville jouait en première ligue il y a quelques années. À Saransk, beaucoup s'interrogent sur l'avenir du stade. À quoi servira-t-il ? Sera-t-il seulement entretenu ? Alexandre Yashkov, président de la Fédération de football de Mordovie, veut balayer ses inquiétudes.
Les 45 000 places sont une exigence de la FIFA, mais après la Coupe du Monde, le stade va être réaménagé. Il sera ramené à 30 000 places. Il n'empêche que pour nous, ça reste considérable, mais il est prévu que le stade soit utilisé pour d'autres événements, comme des concerts. C'est un complexe, pas seulement un stade.
Pour se conformer aux exigences de la FIFA, trois terrains d'entraînement ont été aménagés à Saransk, en plus du stade historique de la ville. Les autorités assurent garder le sens de la mesure et œuvrer à l'intérêt général. Pourtant, les dépenses allouées au mondial ne passent pas toujours bien. Ildar Nevaïev est responsable du comité de soutien à Alexei Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine.
Aujourd'hui, notre région vit uniquement des subventions de Moscou, précisément de ces fonds alloués à la préparation de la Coupe du Monde. Sauf que l'État oublie de financer des aspects très importants du quotidien. Du coup, il y a cette crainte que la région soit abandonnée après la Coupe du Monde, que le développement économique s'interrompe et que toute production disparaisse.
Ildar observe avec scepticisme la multiplication des nouvelles constructions, à l'image de cet étrange complexe apparu sur la place centrale. Personne ne sait encore de quoi il s'agit. À Saransk, les rares voix ouvertement critiques décrivent un fonctionnement politique clanique, avec un secteur économique entièrement sous contrôle. Il y a quelques mois, le journal d'opposition Novaya Gazeta publiait une enquête mettant en lumière les intérêts financiers de l'élite politique locale.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition d'Accent d'Europe. On se retrouve tout de suite sur RFI.fr à la page émission.